Érasme, Colloquia, l'amant et la maîtresse, colloque 18. Pamphile, Marie.
Salut, cruel, salut, cœur de bronze, salut, âme de diamant.
Je vous salue, Pamphile, autant de fois que vous voudrez, et sous tous les noms qu'il vous plaira. Mais vous semblez avoir oublié le mien. Je me nomme Marie.
Mais c'est Marty qu'il aurait fallu vous appeler.
Pourquoi cela, je vous prie? Qu'ai-je de commun avec Mars?
Parce que ce dieu se met à un jeu de tuer les hommes, qu'il en est de même de vous. Seulement, plus cruel que Mars, vous n'épargnez pas même votre amant.
Ciel, où est le champ de carnage des gens que j'ai massacrés? Où est le sang que j'ai répandu?
Si vous voulez voir un vrai cadavre, vous n'avez qu'à me regarder.
Qu'entends-je? Un mort qui parle et qui marche? Puissais-je ne rencontrer jamais de spectre plus redoutable?
Vous vous moquez. Il n'est que trop vrai, pourtant, que vous m'arrachez la vie et que vous me tuez plus cruellement que si vous me perciez de coups de poignard. Et là, vous me faites mourir à petit feu.
Eh, dites-moi, combien de femmes enceintes ont avorté en vous voyant?
Assurément, ma pâleur annonce que je ne suis plus décharné qu'un spectre.
Assurément, cette pâleur est nuancée de rose. Vous êtes pâle comme une cerise mûre ou un raisin vermeil.
Oh, c'est trop raillé un malheureux.
Si vous ne m'en croyez pas, prenez un miroir.
Et je le veux, notre miroir. Je n'en connais pas de plus transparent que celui dans lequel je me contemple en ce moment.
Quel miroir voulez-vous dire?
Et vos yeux?
Herr Gotter, vous êtes toujours le même. Mais à quoi reconnaissez-vous que vous êtes sans vie? Les fantômes mangent-ils?
Oui, mais des aliments insipides, comme les miens.
De quoi se nourrissent-ils?
De mauves, de poireaux, de lapins.
Pourtant, vous ne vous privez ni de chapons, ni de perdrix.
C'est vrai, mais mon palais n'y trouve guère plus de saveur que si c'était des mauves ou des bêtes sans poivre, sans vin et sans vinaigre.
Que je vous plains. Mais en attendant, vous êtes grassouillé. Les fantômes parlent-ils?
Oui, mais d'une voix éteinte.
Pourtant, l'autre jour, lorsque je vous ai entendu vous quereller avec votre rival, il s'en fallait que votre voix fût éteinte. Mais de grâce, les fantômes marchent-ils? S'habillent-ils? Dorment-ils?
De plus, ils font l'amour, mais à leur façon.
En vérité, vos plaisanteries sont très délicates.
Mais que diriez-vous si je vous prouvais par des arguments, Achille, que je suis mort et que vous êtes mon assassin?
Dieu m'en garde, Pamphile, mais développez votre sophisme.
Premièrement, vous m'accorderez, ce me semble, que la mort n'est autre chose que la séparation de l'âme et du corps.
Je vous l'accorde.
Mais n'allez pas revenir sur votre concession.
Je n'y reviendrai pas.
Vous ne direz pas non plus que celui qui arrache l'âme d'autrui est un homicide.
Je suis de votre avis.
Vous reconnaîtrez aussi une vérité admise par les auteurs les plus profonds et continuée par les suffrages de tous les siècles, savoir que l'âme n'est point où elle respire, mais où elle aspire.
Expliquez-vous plus simplement, car je ne saisis pas bien votre pensée.
Et voilà justement ce qui m'écœure, c'est que vous ne partagez pas mes idées.
Faites que je les sente.
Mais faites à votre tour que le diamant puisse sentir.
Je suis une jeune fille et non une pierre.
Oui, mais vous êtes plus dur que le diamant.
Continuez toujours votre raisonnement.
Ceux qui sont ravis en extase n'entendent, ne voient, ne flairent, ne sentent absolument rien. Quand même on les tuerait.
Oui, je l'ai entendu dire.
Et à quoi attribuez-vous la cause de ce phénomène?
Dites-la moi, vous qui êtes un philosophe.
Évidemment, parce que l'âme est au ciel où toutes ses affections la portent et qu'elle n'habite plus le corps.
Eh bien, après?
Après, cruel, mais la conséquence est que je suis mort et que c'est vous qui m'avez tué.
Où est donc votre âme?
Vers qui elle aime.
Mais qui vous a ôté la vie? Ne soupirez point, Parlez franchement, je ne m'en offenserai pas.
Une jeune fille barbare, que néanmoins, tout mort que je suis, je le saurais haïr.
Le bon naturel. Mais pourquoi, à votre tour, ne pas lui ravir son âme et lui rendre, comme on dit, l'appareil ?
Oh, mais je serais au comble du bonheur si cet échange m'était permis, si son âme pouvait passer dans mon cœur comme la mienne a passé tout entière dans le sien.
Me permettez-vous, à mon tour, de faire avec vous la sophiste ?
Oh, tout à votre aise.
Est-il possible que le même corps soit mort et vivant ?
Non, pas en même temps.
Quand l'âme est absente, le corps est-il mort ?
Oui.
Il ne peut pas vivre sans elle.
Assurément.
Comment peut-il se faire que l'âme, une fois réunie à l'objet de ses affections, anime quand même un corps qu'elle n'habite plus ? Et si, malgré son éloignement, elle l'anime, comment qualifier de mort un corps où réside la vie ?
Oh, vous ergotez vraiment d'une façon captieuse, mais je ne me laisserai pas prendre de tels pièges. Cette âme qui gouverne tant bien que mal le corps s'appelle improprement âme, puisqu'en rivalité il n'en reste que de légères traces, comme le parfum de la rose s'attache au doigt même lorsqu'il ne la sent tous plus.
Il est difficile, à ce que je vois, de prendre un renard au lacet. Mais dites-moi, celui qui tue n'est-il pas actif ?
Certainement.
Et celui qui est tué n'est-il pas passif ?
Sans doute.
Eh bien, puisque celui qui aime est actif et que l'objet aimé est passif, comment pouvez-vous dire que l'objet aimé tue quand c'est l'amant qui se suicide lui-même ?
Mais c'est tout le contraire ! L'amant est passif, l'objet aimé actif.
Sur ce point, vous n'aurez pas gain de cause devant l'aréopage des grammairiens.
Bon, j'aurai gain de cause devant les amphictyons de la dialectique.
Permettez-moi encore une question. Est-on libre d'aimer ou de ne pas aimer ?
Oui.
Puisqu'on est libre de ne pas aimer, on s'expose donc, en aimant, à se suicider soi-même. Et c'est à tort que l'on accuse l'objet aimé.
Mais ce n'est point parce qu'elle est aimée qu'une beauté vous tue. C'est lorsqu'elle n'aime pas à son tour. C'est commettre un meurtre de ne pas sauver quelqu'un, si on le peut.
Supposons un jeune homme épris d'une passion défendue pour une femme mariée, pour une vestale. Faudra-t-il qu'elle le paye de retour, afin de lui sauver la vie ?
Mais le jeune homme dont nous parlons est épris d'un amour légitime, pieux, juste et bon, et pourtant il meurt. Si l'accusation d'homicide vous semble légère, vous poursuivrez pour crime d'empoisonnement.
Le ciel m'en préserve. Voudriez-vous faire de moi une nouvelle Circé ?
Pis encore, car j'aimerais mieux être changé en pourceau ou en ours que de me voir réduit à l'état de cadavre comme vous voilà.
Quel est donc ce poison dont je me sers pour détruire les gens ?
Mais le charme !
Voudriez-vous que désormais je détournasse de vous mes regards malfaisants ?
Qu'entendons ? Non, fixez-les sur moi davantage.
Si mes yeux ont le pouvoir de fasciner, pourquoi tous ceux que je regarde ne dépérissent-ils pas ? J'en conclus que le charme existe dans vos yeux et non dans les miens.
Ce n'est point assez pour vous de faire mourir Pamphile, il faut encore que vous l'insultiez.
Oh, le joli défunt, quand ferons-nous les funérailles ?
Oh, plutôt que vous ne pensez, si vous ne lui portez secours.
Quoi ? Je puis faire un pareil miracle ?
Oui, vous pouvez ressusciter un mort, et cela sans beaucoup de peine.
À condition qu'on m'indiquera la recette.
Oh, il ne s'agit pas d'employer des herbes. Il suffit que vous m'aimiez. Rien n'est plus facile, rien n'est plus juste. Autrement, vous ne vous laverez pas de l'accusation d'homicide.
Devant quel tribunal me traduirez-vous ? Devant l'aréopage ?
Non, devant le tribunal de Vénus.
C'est une déesse qui passe pour indulgente.
Ne trompez-vous, il n'y en a pas dans la vengeance, soit plus terrible.
A-t-elle un foudre ?
Non.
A-t-elle un trident ?
Nullement.
A-t-elle une lance ?
Du tout, c'est la déesse de la mer.
Je ne navigue pas.
Mais elle a un enfant.
Cet âge n'est point à redouter.
Dont la rancune est implacable.
Que pourra-t-il me faire?
Ce qu'il pourra vous faire, mais que le ciel vous en préserve, car je ne veux rien présager de fâcheux à une personne qui m'inspire de l'intérêt.
Parlez toujours, je ne suis pas superstitieuse.
Eh bien, je vais vous le dire. Si vous dédaignez un amant qui n'est pas tout à fait indigne que vous le payiez de retour, ou je me trompe fort, ou bien cet enfant, sur l'ordre de sa mère, vous décochera un trait trempé d'un venin mortel, afin que vous soyez éprise éperdument d'un malautru qui, malgré cela, ne vous aimera pas.
Quel supplice abominable m'annoncez-vous là? Je préférerais 100 fois être morte que d'aimer éperdument un homme mal élevé qui ne répondrait pas à mon amour.
Mais nous en avons eu dernièrement un fameux exemple dans la personne d'une jeune fille.
Où cela?
Ma Orléans.
Combien y a-t-il d'années?
D'années? Oh, il n'y a pas 10 mois.
Comment se nommait la jeune fille? Vous ne savez pas?
Si, fait, elle m'est connue comme vous.
Alors, pourquoi ne pas dire son nom?
Parce qu'il est de mauvais augure. Fût à Dieu qu'elle se fût nommée autrement. Elle portait le même nom que vous.
Que faisait son père?
Il est aujourd'hui un des jurisconsultes les plus distingués. Sa fortune est considérable.
Son nom?
Maurice.
Son nom de famille?
D'Aglet.
La mère vit-elle encore?
Non, elle est décédée depuis peu.
De quelle maladie est-elle morte?
Vous voulez le savoir? Elle est morte de chagrin. Le père lui-même, malgré toute sa formaté, a eu ses jours en danger.
Ne pourrais-je pas aussi connaître le nom de la mère?
J'ai fait, il n'est personne qui le connaisse sans Fronat. Mais que signifient toutes ces questions? Pensez-vous donc que je vous forge un compte?
Moi? Pensez cela de vous? Un pareil soupçon retombe plutôt sur notre sexe. Voyons ce qui est arrivé à cette jeune fille.
Elle appartenait, je vous l'ai dit, à une famille honorable, fort riche et jouissant d'une rare beauté. En un mot, c'était un parti digne d'un prince, un adorateur qui n'était pas trop en dessous d'elle, je recherchais sa main.
Comment s'appelle-t-il?
Oh, quel fâcheux pronostic pour moi! Ben, il se nommait aussi Pamphile. Quoiqu'il fût tout au monde pour lui plaire, elle ne cessa de le rebuter par ses dédains. Le jeune homme en mourut de chagrin. Et peu de temps après, la belle tomba éperdument amoureuse d'une espèce qui ressemblait plus à un singe qu'à un homme.
Que dites-vous?
Mais elle conçut pour lui une si violente passion qu'on ne saurait l'exprimer.
Comment une si charmante jeune fille s'amourachait d'un pareil monstre?
Il avait la tête pointue, garnie de mèches de cheveux non peignées, couvert de croûtes et de lentes. Une alopécie, il lui avait mis à nu presque toute la peau du crâne. Ses yeux étaient de travers, son nez connard, ouvert par en haut, sur sa bouche fendue jusqu'aux oreilles, ses dents pourries, sa langue bégayante, son menton galeux, ses épaules bossues, son ventre saillant, ses jambes cagneuses.
C'est un tercite que vous me dépeignez là.
On dit même qu'il avait qu'une oreille.
Il avait probablement perdu l'autre à la guerre.
Non, non du tout, en pleine paix.
Qui a causé commettre un pareil attentat?
Denis le bourreau.
Apparemment, sa laideur était compensée par une fortune considérable.
Erreur! Il avait tout mangé et levait jusqu'à sa peau. Cette jeune fille si distinguée passe maintenant sur vie avec un pareil mari qui de temps en temps la maltraite.
Vous me racontez là une bien triste aventure.
Mais c'est la vérité. Voilà comment Némésis a puni les affronts d'un jeune homme au convire dénier.
J'aimerais mieux que la foudre m'écrasât que de souffrir un pareil mari.
Alors n'allez donc pas provoquer Némésis. Aimez celui qui vous adore.
S'il ne faut que cela, je vous rends amour pour amour.
Je voudrais que cet amour fût éternel, car ce n'est pas une maîtresse que j'ambitionne, mais une épouse légitime.
J'en suis persuadé. Mais il faut bien réfléchir avant de contracter un engagement qui est irrévocable.
Oh, pour moi, j'ai réfléchi surabondamment.
Prenez garde que l'amour ne vous en impose. Ce n'est pas un excellent conseiller, car on le dit aveugle.
Et celui que la raison fait naître à des yeux. Ce n'est point parce que je vous aime que je vous vois ainsi. Mais je ne vous aime que parce que je vous vois tel que vous êtes.
Prenez garde de ne me connaître qu'imparfaitement. Ce n'est que lorsqu'on s'est chaussé que l'on sent où le soulier blesse.
Eh bien, j'en cours la chance, d'autant plus que 1000 augures m'annoncent que je réussirai.
Quoi ? Vous êtes aussi augure ?
Oui.
Quels sont les aruspices que vous avez recueillis ? La chouette a-t-elle volé ?
Elle vole que pour les sots.
Avez-vous vu passer à votre droite un couple de pigeons ?
Non, rien de tout cela, mais depuis quelques années déjà, j'ai pu apprécier la probité de vos parents. C'est un premier auspice qui témoigne clairement que vous appartenez à une honnête famille. Je sais aussi par quels sages conseils, par quels pieux exemples ils vous ont élevé. Or, une bonne éducation est préférable à une bonne naissance. Vous avez pour vous ce second augure. Ma famille, qui, ce me semble, n'est pas mauvaise, est depuis longtemps étroitement liée avec la vôtre. Nous nous connaissons, pour ainsi dire, dès le berceau, et nos goûts s'artistent assez. Nous sommes presque du même âge. Nos parents sont à peu près égaux, sous le rapport de la fortune, du rang et de la noblesse. Enfin, ce qui est la base de l'amitié, votre caractère me paraît beaucoup s'accommoder au mien. Car un caractère peut être beau en soi et n'être pas sympathique. Jusqu'à quel point le mien s'accordera-t-il avec le vôtre, je le sais. Ces présages, vous le voyez, ma belle, ne me promettent pas notre union. Sera heureuse, constante, agréable et douce, pourvu que ne vous fassiez pas entendre un chant de mauvais augure.
Quelle chanson voulez-vous ?
Mais je vais chanter le premier. Je suis à vous, répondez-moi, je suis à vous.
La chanson est courte, mais l'épiphonème en est long.
Mais qu'importe qu'il soit long, pourvu qu'il soit agréable.
Vous m'êtes si odieux que je ne voudrais pas que vous fissiez une chose dont vous puissiez toujours vous repentir.
Non, cessez ces tristes présages.
Peut-être vous paraîtrai-je bien différente quand l'âge ou la maladie aura changé mes traits.
Ce corps que voici, ma belle, ne sera pas non plus toujours plein de santé. D'ailleurs, je ne contemple pas seulement cette demeure délicieuse et élégante. J'aime encore mieux l'hôte qui l'habite.
Quel hôte ?
Mais votre esprit, dont l'éclat ne fera que croître avec l'âge.
Certes, vous avez des yeux plus perçants que l'insee, si vous l'apercevez à travers tant de voiles.
Mais je distingue l'esprit avec les yeux de l'esprit. En outre, nous rajeunirons de temps en temps dans nos enfants.
Mais en attendant, adieu la virginité.
C'est vrai. Mais dites-moi, si vous aviez un beau verger, voudriez-vous qu'il n'y voie que des fleurs ? N'aimeriez-vous pas mieux, quand les fleurs sont tombées, voir vos arbres chargés de fruits mûrs ?
Quelle subtilité !
Mais répondez du moins à cette question. Quel est le plus beau spectacle de la vigne qui rampe à terre et se pourrit, ou de celle qui, enlaçant un échalas ou un ormeau, le fait plier sous le poids de ses raisins pourprés ?
Répondez-moi à votre tour. Quel est le plus charmant spectacle, de la rose brillante de blancheur sur sa tige, ou de celle que les doigts ont cueillie et qui se fane peu à peu ?
Je trouve que la rose qui se fane dans la main d'un homme dont elle réjouit la vue et l'odorat est plus heureuse que celle qui vieillit sur sa tige, car tôt ou tard elle s'y serait fanée. Il en est de même du vin que l'on boit avant qu'il ne s'aigrisse. D'ailleurs, une jeune fille ne perd pas sa beauté en se mariant. J'en connais au contraire plusieurs qui, avant le mariage, étaient pâles, languissantes, déjà ornées, et qui après en sont embellis et ont commencé à fleurir.
Cependant, la virginité est bienvenue et applaudi de tout le monde.
Une jeune fille vierge est à la vérité un objet charmant, mais quoi de plus monstrueux aux yeux de la nature qu'une vieille femme vierge? Si votre mère n'avait pas perdu la fleur de sa virginité, nous n'aurions pas la vôtre. Et si, comme je l'espère, notre union n'est pas stérile, au lieu d'une vierge, nous en ferons plusieurs.
Cependant, on dit que la chasteté est une chose très agréable à Dieu.
Et c'est pour cela que je désire épouser une jeune fille chaste afin de vivre avec elle chastement. Nous serons unis plutôt par l'âme que par le corps. Nous engendrerons pour l'État. Nous engendrerons pour le Christ. Un tel mariage diffère-t-il beaucoup de la virginité? Peut-être vivrons-nous ensemble un jour comme ont vécu Joseph et Marie. En attendant, nous apprendrons la virginité, car on n'arrive pas d'un coup à la perfection.
Qu'entends-je? Il faut violer la virginité pour l'apprendre?
Pourquoi pas? De même qu'en buvant petit à petit fort peu de vin, on apprend à s'en passer. Lequel trouvez-vous le plus tempérant? De celui qui, assis à une bonne table, s'abstient ou de celui qui vit à l'écart de tout ce qui excite l'intempérance?
Je trouve qu'il y a plus de vertu dans la tempérance de celui que les facilités offertes ne peuvent corrompre.
Et lequel mérite mieux la palme de la chasteté? De celui qui se dépouille de sa virilité ou de celui qui, possédant tous ses organes, renonce à Vénus?
À mon avis, le second mérite certainement la palme de la chasteté. Le premier n'est qu'un fou.
Et ceux qui, liés par un beau renoncent au mariage, ne se dépouillent-ils pas en quelque sorte de leur virilité?
Il me semble.
D'ailleurs, la continence n'est pas une vertu.
Vraiment?
Croyez-le. Si la continence était par elle-même une vertu, l'union conjugale serait un vice. Or, il est des cas où la continence est un vice, et où l'union conjugale est une vertu.
Quand cela?
Et chaque fois que le mari réclame son droit à sa femme, surtout s'il est poussé par le désir d'avoir des enfants.
Quoi? S'il obéit à l'attrait du plaisir, sa femme ne doit pas refuser?
Elle doit l'avertir, le rappeler doucement à la continence, mais s'il insiste, elle ne doit pas résister. D'ailleurs, sur ce chapitre-là, je connais peu de maris qui aient à se plaindre de leur femme.
Mais la liberté est douce.
Non, la virginité est un lourd fardeau. Je serai votre roi, vous serez ma reine, nous gouvernerons notre famille à notre guise. Trouvez-vous que ce soit là de l'esclavage?
Le monde nomme le mariage un licole.
Mais ceux qui le nomment ainsi mériteraient qu'on leur mît un vrai licole. Dites-moi, je vous prie, votre âme n'est-elle pas liée à votre corps?
Oui.
Mais elle est comme l'oiseau dans sa cage. Viens demander lui si elle voudrait être libre. Elle répondra que non, j'en suis sûr. Pourquoi? Parce qu'elle est liée volontairement.
Nous avons peu de fortune l'un et l'autre.
Mais n'en sera que plus facile à garder. Nous l'augmenterons, vous au-dedans par l'économie, que l'on appelle avec raison un gros revenu, et moi, au-dehors, par mon industrie.
Les enfants sont une source d'innombrables soucis.
Mais aussi d'innombrables plaisirs. Souvent, ils s'acquittent avec usure envers leurs parents des obligations qu'ils leur ont.
Il est triste de les perdre.
Et n'êtes-vous pas maintenant comme si vous les aviez perdus? Mais à quoi bon se livrer à ce fâcheux pressentiment dans une affaire incertaine? Dites-moi, lequel aimeriez-vous mieux le mieux, de pas naître ou de naître à condition de mourir?
Assurément, j'aimerais mieux naître à la condition de mourir.
Ainsi, ceux qui n'ont pas eu, ceux qui n'auront pas d'enfants, sont plus à plaindre, de même que ceux qui ont vécu sont plus heureux que ceux qui ne sont pas nés et qui ne naîtront jamais.
Quels sont ceux qui ne sont pas et qui ne seront pas?
D'ailleurs, quiconque refuse de se soumettre aux événements humains qui nous menacent tous indistinctement, peuples et rois, doit renoncer à vivre. Cependant, quoi qu'il advienne, vous n'en supporterez que la moitié. Je prendrai pour moi la plus forte part. Ainsi, s'il arrive quelque chose d'heureux, le plaisir sera double. Et si quelque chose de fâcheux, la communauté supprimera la moitié du chagrin. Pour moi, quand ma dernière heure viendra, il me sera doux de mourir dans vos embrassements.
Les hommes supportent aisément ce qui arrive d'après les lois de la nature. Mais je remarque que beaucoup de parents sont plus affligés de la conduite de leurs enfants que de leur mort.
Oh, il dépend de nous, en grande partie, d'éviter ce malheur.
Comment cela?
Parce que, sous le rapport du caractère, les bons naissent ordinairement des bons. En effet, les colombes ne produisent pas des 1000 ans. Nous ferons donc en sorte d'être bons nous-mêmes. Ensuite, nous aurons soin d'inculquer à nos enfants, dès le bas âge, de sages leçons et de vertueux sentiments. Il faut bien prendre garde à la liqueur que l'on répand dans un vase neuf. Enfin, nous tâcherons de leur donner à la maison des exemples qu'ils puissent imiter.
Ce que vous dites là est difficile.
Sans doute, parce que c'est beau. Vous aussi, par la même raison, vous êtes difficile. Aussi redoublerons-nous d'efforts pour obtenir ce résultat.
Vous aurez une matière ductile. Ce sera à vous de me former et de me façonner.
Mais en attendant, prononcez 3 mots.
Rien n'est plus facile. Mais une fois que ces mots se seront envolés, ils ne reviendront plus. Je vais vous donner un conseil qui vaudra mieux pour tous les deux. Entendez-vous avec vos parents et les miens pour que la chose se fasse avec leur consentement.
Vous voulez que je fasse la demande? Vous pouvez en 3 mots décider l'affaire.
Je ne sais si je le puis. Je ne suis pas ma maîtresse. Autrefois, les mariages ne se concluaient pas sans la volonté des parents. Quoi qu'il en soit, je pense que notre union sera plus heureuse si nos parents l'approuvent. C'est à vous de faire la demande. Pour moi, ce serait inconvenant. La virginité veut qu'on lui fasse violence, lors même que nous aimons le plus ardemment.
Oh, je ne crains point de faire la demande, pourvu que ne me refusiez pas votre suffrage.
Je ne vous le refuserai point. Soyez tranquille, mon cher Pamphile.
En cela, vous êtes plus scrupuleuse que je ne voudrais.
Examinez plutôt votre suffrage à vous-même. Ne consultez pas votre passion, mais la raison. Ce que la passion décide est passager, tandis que ce qui est décidé par la raison plaît ordinairement toujours.
Certes, vous philosophez à merveille. Aussi suivrai-je fidèlement votre avis.
Vous ne vous repentirez pas de votre déférence. Mais voyons, il me vient un scrupule qui me tourmente.
Laissez là vos scrupules.
Voudriez-vous que j'épousasse un mort?
Ah, pas du tout, car je revivrai.
Vous avez levé mon scrupule. Portez-vous bien, mon cher Pamphile.
Oh, cela dépend de vous.
Je vous souhaite une bonne nuit. Pourquoi soupirez-vous?
Plus bonne nuit, dites-vous. Mais putain Dieu, que vous officiez don de ce que vous me souhaitez.
N'anticipons pas. Votre moisson est encore en herbe.
N'emporterai-je rien de vous?
Voilà une pastille qui vous fera du bien.
Bon, ajoutez-y au moins un baiser.
Je veux vous remettre ma virginité pure et intacte.
Mais est-ce qu'un baiser ôte quelque chose à la virginité?
Voudriez-vous donc que j'accordasse des baisers aux autres?
Oh non, du tout. Je veux que vous me réserviez vos baisers.
Je vous les réserve. D'ailleurs, il y a un autre motif qui m'empêche actuellement de vous donner un baiser.
Quel motif?
Vous dites que votre âme a passé presque tout entière dans mon corps et qu'il n'en reste plus dans le vôtre qu'une faible parcelle. Par conséquent, je craindrais que cette parcelle qui vous reste ne passât en moi avec ce baiser et que vous ne devinssiez tout à fait inanimé. Prenez donc ma main en signe d'un amour mutuel. Et au revoir. Conduisez bien l'affaire. Moi, de mon côté, je prierai le Christ de daigner rendre notre union heureuse et prospère.